Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence puisqu'il est 14h32. Donc merci de vous être connectés pour ce webinaire donc qui est consacré à l'ANI, donc l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur. Je vous propose qu'on commence et je passe la parole du coup à Pierre-Mathieu Jourdan qui va nous rappeler un petit peu le contexte politique dans lequel est intervenue cette négociation.
Merci France, bonjour à toutes et à tous. Alors trois temps à ce webinaire de l'Académie MEDEF cet après-midi sur l'ANI partage de la valeur. On reviendra et on insistera un petit peu sur le contexte politique dans lequel cette négociation s'est ouverte et tenue. Quelques mots de diagnostic sur les grands équilibres macroéconomiques qui nous ont permis sur lesquels on s'est basé pour négocier cet accord. Et puis évidemment, nous reviendrons plus longuement sur le contenu de cet accord et ses principales mesures. Le contexte politique. Effectivement, on le rappelle, comme vous le voyez à l'écran, un exercice imposé face à un fort risque politique. Vous vous en souvenez, durant la campagne présidentielle de 2022, le candidat Macron avait promis la mise en place d'un dividende salarié. Et c'est sur la base de cette promesse que le ministère du Travail a sollicité les partenaires sociaux dès septembre 2022 pour engager une négociation sur le partage de la valeur en entreprise, négociation sur laquelle il nous proposait de traiter trois axes principaux. Le premier, c'était la généralisation de la participation, pour le dire plus clairement, la généralisation aux PME de moins de 50 salariés de la participation. Deuxième axe, l'amélioration des dispositifs en vigueur de partage de la valeur, intéressement, participation, prime de partage de la valeur et plan d'épargne entreprise. Et enfin, troisième et dernier axe, l'orientation de l'épargne collectée à travers ces dispositifs vers l'intéressement dit socialement responsable, en faveur notamment de la transition environnementale et aussi de l'investissement productif. Donc l'ensemble des organisations représentatives au niveau national et interpro ont accepté d'entrer dans cette négociation qui a démarré le 8 novembre. Et le MEDEF a pris notamment la décision d'entrer dans cette négociation en ayant la conviction que un accord le plus large possible permettrait d'aboutir à des mesures finalement moins néfastes pour les entreprises que celles qui commençaient d'ores et déjà, et on va y revenir juste après, à circuler au sein de la majorité et au sein du Parlement en général sur ce sujet-là. Une négociation entre guillemets impossible, pour reprendre les mots de notre président dans la presse dans la dernière phase de la négociation. D'une part parce qu'elle s'est engagée dans un contexte économique et social évidemment compliqué. Je ne reviendrai pas sur les chiffres de l'inflation et les problématiques liées au pouvoir d'achat qui sont prégnantes depuis l'automne, enfin depuis bien avant, mais encore actuellement et depuis l'automne 2022, et donc qui ont fortement marqué le contexte de cette négociation, et puis un contexte social assez brûlant avec la réforme des retraites, qui finalement, on le verra, et on le voit avec l'aboutissement de cette négociation, a peut-être, certes compliqué les discussions, mais peut-être aussi joué en la faveur des partenaires sociaux, en ce que ça a plutôt poussé les organisations syndicales à venir chercher un compromis pour montrer justement la capacité des partenaires sociaux à conclure des accords face au pouvoir politique. Dans ce contexte compliqué, les interférences politiques se sont multipliées en parallèle de la négociation et dans ce cadre-là, la majorité présidentielle, la majorité Renaissance, avait notamment validé deux propositions particulièrement problématiques pour, selon le MEDEF. La première, qui était une obligation applicable à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, de verser donc le fameux dividende salarié, pour avoir le droit pour les entreprises cotées de verser un dividende aux actionnaires, mais cela impliquait également une obligation pour les
cotées ou non cotées,
de verser un dividende aux actionnaires. Merci François. mais cela impliquait également pour les entreprises de moins de 50 de mettre en place obligatoirement un dispositif de participation, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Deuxième point, une obligation de mettre en place un dispositif dit de super participation pour les entreprises de 50 salariés et plus versant des, j'ouvre les guillemets, super dividendes. Et la référence pour caractériser ce qu'est un super dividende ou un super résultat, c'est de considérer que les dividendes versés supérieurs à 20% de la moyenne des 5 dernières années devait donner lieu au versement de cette super prime de participation. Et donc cette négociation s'est ouverte avec des demandes très fortes et très dures de la part des organisations syndicales qui ont fait avant tout, en s'éloignant assez fortement des axes du document d'orientation du ministère du Travail, qui ont fait avant tout du sujet des salaires leur sujet en début de négociation et tout au long des discussions, même si nous sommes parvenus à amoindrir ces revendications. Et donc sur le sujet des salaires, on a eu dès le début des demandes sur un retour à l'échelle mobile des salaires avec une augmentation automatique des minima de branche à chaque revalorisation du SMIC, une hausse obligatoire des grilles salariales après deux années de versement d'une prime exceptionnelle sans revalorisation salariale, la mise en place d'un salaire minimum de référence pour les cadres, qui aurait dû, alors c'était une proposition notamment de la CFE-CGC, qui aurait dû selon eux être au moins supérieur de 20% au salaire médian des professions intermédiaires applicables dans la branche. Des demandes très contraignantes s'agissant de la participation, avec là aussi en écho aux réflexions en cours au sein de la majorité, la volonté de rendre obligatoire la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés, la mise en place d'une nouvelle formule de participation sous le prétexte de rendre ça plus simple. La CFDT notamment proposait en début de négociation de mettre en place une formule égale à 10% du résultat net comptable calculé au niveau du groupe, précision importante et non pas au niveau de l'entreprise. Une redistribution obligatoire de 50% des bénéfices non investis par l'entreprise et interdiction de versement des dividendes aux actionnaires lorsque l'entreprise ne verse aucune participation ou intéressement à ses salariés. Là aussi, ça fait écho à la logique du dividende salarié. Et puis l'obligation de négocier la participation via le mandatement dans les PME dépourvues de délégués syndicaux, demande là aussi assez forte de la CFDT et notamment de Force ouvrière. Une demande unanime de limiter drastiquement le recours à la prime de partage de la valeur. Et quand on dit limitation, certaines sont allées jusqu'à quasiment la fin des discussions à demander sa suppression pure et simple, en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et enfin, des revendications s'agissant de la gouvernance des entreprises avec des demandes visant à augmenter le nombre de sièges réservés aux salariés dans les conseils d'administration. Là aussi, sujet un peu éloigné, malgré tout, du cœur de la négociation sur le partage de la valeur. Et donc pourtant, malgré cette négociation qui semblait impossible, des demandes très fortes et très dures des organisations syndicales, nous sommes parvenus à un accord majoritaire qui a permis d'écarter la quasi-totalité de ces, enfin la totalité des demandes dont je faisais état juste avant, des demandes les plus dures en tout cas, négociations qui sont conclues le 10 février dernier lors d'une séance de plus de 10 heures avec plusieurs interruptions de séance, des débats difficiles notamment sur la pérennisation de la PPV, mais on y reviendra avec un succès pour le MEDEF et la délégation patronale dans son ensemble, de voir cette prime pérennisée, en tout cas son principe pérennisé dans l'accord. Et une conclusion qui a été permise grâce à la mise sur la table de deux propositions phares validées par le bureau du conseil exécutif, et nous y reviendrons là aussi dans la présentation du contenu de l'accord. Deux mots pour vous dire que nous connaissons donc aujourd'hui l'ensemble des signataires de l'accord, donc c'est l'ensemble des partenaires sociaux sont signataires à l'exception de la CGT qui, comme à son habitude, sauf quelques rares exceptions, mais là non plus ne signera pas cet accord. Et précise également que la très grande majorité des dispositions de cette année est sujette à, enfin, nécessitera une transposition législative, ce qui devrait intervenir via la loi dite plein emploi que prépare le gouvernement sur un certain nombre de sujets plus large que le seul sujet du partage de la valeur, loi plein emploi qui devrait être présentée au Parlement d'ici cet été. Voilà pour le contexte et je passe la parole à François sur le diagnostic.
Bonjour à tous. Ce diagnostic, on l'a établi en première phase de la négociation et c'est intéressant de le faire pour mettre du contexte et puis pour bien montrer que quand on parle de partage de la valeur, on n'est pas hors sol et qu'il faut s'inscrire dans un corpus de règles qui existent déjà et dans des pratiques dont on voit qu'elles sont à la fois assez stables dans le temps et plutôt favorables aux salariés en France quand on se compare à d'autres pays. Ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire de plus, de mieux évidemment, mais on part pas de nulle part et on part certainement pas d'une situation à la Zola. Ce qui va l'illustrer, c'est un peu les décomptes qu'on fait en comptabilité nationale, et là ce qu'on vous présente, c'est l'affectation de ce qui constitue la valeur ajoutée. Et donc vous voyez que 50% de cette valeur ajoutée, 50% de cette valeur ajoutée est dédiée à la rémunération des salaires bruts. Vous avez à peu près 1% qui va dans ce qu'on appelle les impôts de production. Les cotisations employeurs, c'est aussi une part importante avec ces 14%. Et vous avez un gros tiers qui va constituer l'excédent brut d'exploitation, qu'on va retrouver là aussi lui-même dans la décomposition des affectations. À travers les impôts directs, donc on va pouvoir ajouter aux impôts de production, différents transferts courants, on n'y revient pas, c'est pour 2%, les intérêts, donc tout ce qui est charge d'emprunt, les dividendes, et là on arrive sur le cœur du sujet, qui représente un peu moins de 4%, et puis vous allez trouver donc 4% de la valeur ajoutée, et on va retrouver les profits non distribués et l'épargne, qui va représenter quasiment le quart de la valeur ajoutée, et l'épargne qui va servir évidemment à alimenter la capacité de financement de l'entreprise. Je vous disais, une fois qu'on a fait ce constat, et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution dans le temps et de se comparer à nos voisins, ou en tout cas à des économies comparables. Ce qu'on voit, c'est que depuis un peu plus d'une trentaine d'années, on a une part des salaires et traitements bruts qui augmente tendanciellement, avec des marges qui ont tendance à se redresser sur une période plus courte. On va dire qu'on a un démarrage du redressement des marges depuis 2013. Ceci dit, alors pour ceux qui ne le verraient pas forcément en ligne, la courbe bleue la plus haute, c'est celle des salaires et traitements. En dessous, vous retrouverez en jaune les marges. En dessous encore, en orange, aux alentours, en dessous des 20%, les cotisations employeurs et au plus bas les impôts nets de subvention. Donc on voit des évolutions, on va dire, tendancielles. On n'est pas sur des. On voit peu de pics, et on n'est pas sur des évolutions massives. Sur la part des salaires dans la valeur ajoutée, en revanche, on peut voir des évolutions plus nettes. Ce qu'on disait, c'est que l'évolution, à la CC, on est plutôt sur une stabilité ou une hausse tendancielle de la part des salaires bruts des nets dans la valeur ajoutée. Mais depuis le milieu des années 80, en fait, c'est-à-dire depuis la fin de l'indexation des salaires sur l'inflation. Et donc, on a le décrochage qui a eu lieu entre le début des années 80 et l'arrivée sur 86-88. Donc là, c'est assez marqué. Ce qui est intéressant dans les débats, c'est qu'évidemment, quand on a de l'argumentation avec les OS, de facto, on prend pas tous les mêmes repères de temps et on n'a pas tous les mêmes visions de ces évolutions. Donc, côté MEDEF, on voit évidemment, on regarde sur les 30 dernières années pour arguer qu'on a cette stabilité, voire une hausse. Évidemment, quand on est face à des syndicats qui ont en ligne de mire l'indexation ou au moins les demandes d'augmentation salariale massive, eux, leur référentiel, il est plutôt celui des 30 glorieuses, et voire de la période qui va aller jusqu'aux années 80. Si nous nous comparons donc à nos voisins sur la part de rémunération dans la valeur ajoutée, ce qu'on va voir, c'est qu'elle est à la fois plutôt stable, ce que je vous disais en France, et puis surtout le salarié français est plutôt bien situé par rapport aux salariés d'autres pays européens. C'est écrit en petit, je vous le décrypte. Au plus haut, on a on retrouve les Allemands. Les salaires en Allemagne. Juste en dessous, en bleu, ce sont les salaires en France. En dessous, en gris, l'Italie, puis l'Espagne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces évolutions, elles traduisent pas mal de choses, et donc c'est pas forcément, on ne peut pas forcément les lire comme une seule représentation de l'évolution des salaires, puisque c'est en proportion de la valeur ajoutée. Donc, il faut voir les évolutions des autres éléments dans la constitution de la valeur ajoutée, et notamment l'intensité capitalistique va avoir un jeu important, et c'est évidemment marqué quand on regarde les éléments sur l'Allemagne, comme sur l'Espagne, pour laquelle on note une dégradation assez forte, et cette dégradation de ce qu'on peut observer en Espagne, par exemple, elle donne aussi de la valeur à la stabilité et à ce qui a été pratiqué en France. Voilà. Je vous propose qu'on vienne sur le contenu de l'accord et ses principales mesures en cédant la parole à Pierre.
Oui, alors effectivement, la première chose à rappeler concernant le contenu de cet accord, c'est que en début de négociation, le MEDEF est parti avec deux lignes rouges qui ont été parfaitement respectées. D'une part, on ne souhaitait pas que l'accord conduise à l'extension de l'obligation de participation aux entreprises de moins de 50 salariés, puisque je vous le rappelle, actuellement, et y compris une fois l'accord signé, la loi n'impose pas de mettre en place de dispositifs de participation aux entreprises de moins de 50 salariés. Cette obligation n'est généralisée que pour les entreprises à partir de 50 salariés. Et sachant que le seuil d'effectif de 50 salariés doit être franchi pendant une période assez longue de 5 années consécutives. Puis par ailleurs, l'autre ligne rouge pour le MEDEF dans le cadre de cette négociation, c'était de ne pas élargir les discussions à la question des salaires et de ne surtout pas introduire dans cet accord interprofessionnel de disposition ou d'obligation pour les branches ou les entreprises de fixer un niveau de rémunération défini par l'ANI. Donc, de ce point de vue-là, les lignes rouges ont été très bien respectées, et je laisse Pierre-Mathieu poursuivre sur la présentation de l'accord. Donc, tout d'abord, l'accord à leur présente, outre qu'il n'a pas entraîné de franchissement de nos lignes rouges, l'accord propose des avancées substantielles hein, du point de vue des organisations patronales et donc des employeurs. Tout d'abord, l'accord limite totalement le risque de dividendes salariés que Pierre-Mathieu vous a exposé tout à l'heure, puisque voilà, on a complètement écarté le risque de voir le législateur introduire dans la loi, dans un texte de loi, la notion de dividende salarié. Donc, d'une part, nous avons obtenu des organisations syndicales signataires de l'accord l'engagement de respecter l'accord au moment de sa transposition législative et réglementaire, donc à ne pas demander davantage au législateur que ce que prévoit l'accord. D'autre part, l'accord rappelle expressément que la notion de dividende salarié est inadaptée et source de confusion, et les signataires s'engagent à ne pas porter sa mise en œuvre auprès des pouvoirs publics. Et puis par ailleurs, nous avons également garanti, comme je viens de le dire, ou échappé à la généralisation de la participation obligatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés. Ensuite, nous avons également gagné la possibilité, sachant que c'est une simple faculté et non en aucun cas une obligation, mais la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de mettre en place une formule de participation dérogatoire à la baisse pour les entreprises de moins de 50 salariés. En d'autres termes, une entreprise de moins de 50 salariés qui a la volonté de mettre en place un dispositif de participation peut désormais choisir une formule de participation qui donnerait un résultat moins favorable que la formule de participation actuellement rendue obligatoire par la loi dans les entreprises de plus de 50 salariés. Ça n'était pas possible auparavant. Et puis enfin, l'accord préserve et améliore le dispositif de prime de partage de la valeur, puisqu'elle l'inscrit clairement dans le cadre de l'épargne salariale avec une possibilité de placement sur les PE ou PER, et qu'elle prévoit, ce qui n'était pas possible auparavant, elle donne la faculté aux entreprises de prévoir deux octrois au cours de l'année de cette PPV, puisque actuellement l'entreprise, jusqu'à présent, et tant que le législateur ne transpose pas l'accord, l'entreprise n'avait que la possibilité de prévoir une PPV annuelle sans pouvoir prendre deux décisions séparées pour choisir de verser un premier montant dans un premier temps et de revenir et de prendre une nouvelle décision pour verser un deuxième montant dans un second temps. Donc là, ça donne plus de souplesse aux employeurs pour mettre en place la prime de partage de la valeur. Voilà. Alors,
je vais reprendre la main. Dans les nouveautés que l'accord ouvre, on a un nouvel outil qui est celui du plan de partage de la valorisation des entreprises. Alors le nom n'est pas forcément le plus beau, mais il y a de l'intérêt qui est celui de pouvoir offrir à ses collaborateurs une prime qui va dépendre non pas du résultat qu'on génère, mais de la valorisation de l'entreprise. Autrement dit, évidemment, on est dans un dispositif qui est complètement à la main de l'entreprise et volontaire, elle ne le fait que si elle le souhaite, mais il y avait une demande d'un certain nombre d'entreprises qui se disent que j'ai ou pas les outils de participation ou d'intéressement, je ne veux pas forcément aller vers l'actionnariat salarié qui, à ce stade, me paraît ou trop complexe ou trop coûteux ou je suis pas familiarisé ou, et c'est assez fréquent, je ne souhaite pas ouvrir la gouvernance de mon entreprise à mes salariés, en tout cas pas à ce stade, mais je voudrais avoir un outil qui me permet de les fidéliser dans le temps et de les intéresser à la valorisation de l'entreprise elle-même, qu'elle soit cotée ou non cotée, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Avec cet outil qui reste à transposer dans la loi, donc qui devra être affiné dans son fonctionnement et dans les différents éléments techniques, ce qu'il sera possible de faire, c'est de constater, d'ouvrir un plan en disant que à chacun de ses salariés, on attribue une valeur, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur verser de montant, mais on va attribuer une valeur. Exemple, pour la simplicité du raisonnement, je vous attribue un droit, on va appeler ça un droit, d'une valeur de 100, et on se donne rendez-vous dans 3 ans. Si l'entreprise s'est dévalorisée, bon, bah, y a rien à perdre, rien à verser. Si l'entreprise s'est valorisée, au contraire, on va appliquer le montant de le taux de cette valorisation, admettons qu'elle ait pris 5%, au droit que je vous ai donné. Je vous avais attribué 100, pardon, il y a 3 ans. J'applique mes 5 à 100, vous allez gagner 5 euros. Évidemment, on peut être sur des sommes plus ou moins conséquentes. Et en termes de décaissement, il est prévu qu'on puisse décaisser en plusieurs fois. Et encore une fois, c'est un calcul à faire, mais c'est à la volonté de l'entreprise. C'est l'entreprise, l'employeur qui le souhaite, qui peut le mettre en place. Et donc là, on a un outil qui sera finalement, d'une certaine façon, assez proche d'un intéressement triennal, mais sur d'autres critères, sur le critère de la valorisation, et donc qui peut avoir à la fois de la souplesse et de l'intérêt, encore une fois, pour fidéliser les salariés et pour les intéresser à un autre type de construction de la valeur et à partager plutôt une variation du patrimoine plutôt que du revenu. Donc ça nous a semblé assez intéressant de pousser ça dans le débat. Ça n'a pas été simple et finalement, c'est aussi un des points sur lesquels on a fini par trouver des terrains d'entente avec les OS. Toujours moi. Allons-y. Dans les améliorations que l'ANI propose, on va s'arrêter sur quelques-unes. Il y a des dispositions qui sont, on va dire, techniques, aussi dans le sens où elles n'amenaient pas forcément de dissension entre organisations syndicales et patronales. C'est particulièrement le cas du rehaussement du plafond d'abondement des PE, PEI, PER. Donc il sera possible à l'avenir de verser un peu plus qu'aujourd'hui sur ces plans pour l'employeur. C'est également le cas de la possibilité d'acompte pour la participation. Comme peut-être certains d'entre vous le savent, en termes en intéressement, on a la possibilité d'anticiper la fin d'année, la constatation de l'atteinte des critères et des montants à verser pour verser des acomptes. Alors avec certaines complexités en cas de trop-perçu du salarié, mais on a souhaité ouvrir la même possibilité pour ce qui concerne la participation en estimant que à un certain stade de l'année, on peut avoir des perspectives un peu plus nettes sur l'atteinte des résultats. Et donc ça peut être intéressant pour l'employeur qui le souhaite et pour les salariés qui ont des besoins ou de pouvoir d'achat ou de constitution plus rapide de leur épargne, d'avoir cette possibilité de se voir verser des acomptes. On a également dans ces avancées la sécurisation du recours aux critères de RSE dans l'intéressement. Ce qui nous remontait des entreprises, c'est que il y a une certaine incertitude sur la possibilité d'intégrer des critères de RSE dans la mesure où il est difficile de caractériser le fait que leur atteinte soit aléatoire ou pas. Et donc on a souhaité inscrire dans l'accord qu'il fallait des dispositions beaucoup plus claires de la loi et des éléments de doctrine qui soient diffusés par les organismes de contrôle pour que les entreprises soient beaucoup plus sécurisées dans la pratique et puissent, quand elles le souhaitent, mettre plus facilement en place ces critères de RSE. Autre point que l'ANI permet de voir avancer, c'est la discussion dans les branches de l'intérim, mais peut-être que France veut intervenir plus particulièrement sur ce point.
Oui, tout à fait. Alors, cette disposition autorise la branche de l'intérim à pouvoir négocier sur des critères différents en fonction de la nature du contrat qui lie l'entreprise de travail temporaire et les salariés selon qu'ils sont permanents, c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans les agences ou qu'ils sont liés par un contrat de mission, donc les intérimaires qui travaillent chez les entreprises utilisatrices. Aujourd'hui, la règle ne permet pas de faire de distinction entre ces salariés et de fait, ça dissuade très fortement les entreprises du travail temporaire de négocier des accords d'intéressement puisque compte tenu de la masse salariale que représentent les salariés intérimaires, ça conduirait à une très forte dilution des sommes versées. Et donc, cet article, qui a fait l'objet d'ailleurs de pas mal de discussions avec les organisations syndicales, qui étaient attachées à un principe d'égalité de traitement, a finalement été adopté dès lors que on passait par la voie de la négociation au niveau de la branche. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de pouvoir favoriser le déploiement d'accords d'intéressement dans la branche de l'intérim, le cas échéant, en faisant une distinction donc entre salarié permanent et salarié intérimaire.
Une autre disposition pour en finir sur les parties, on va dire plus techniques et à enjeux politiques plus limités, qui est ouverte par l'ANI, c'est la création de 3 nouveaux cas de déblocage des plans d'épargne entreprise. Ces trois nouveaux cas, ce sont la réalisation de travaux de rénovation énergétique, l'achat d'un véhicule propre et les dépenses engagées par un proche aidant. On était plutôt ouvert pour envisager un nouveau cas de déblocage, par exemple sur les travaux de rénovation énergétique, parce que il y a un enjeu de société et de climat qui est évident, et il y a une charge sur l'épargne et le pouvoir d'achat des salariés. Sur d'autres éléments, on souhaitait être plus prudent, mais c'était une demande très forte des organisations syndicales. Le pourquoi de la prudence, c'est pas un jugement sur le fond, c'est parce que l'objectif des PE, c'est de permettre aux salariés de constituer de l'épargne, et plutôt, compte tenu des dispositifs fiscaux qui l'encadrent, plutôt une épargne de moyen-long terme. Et pourquoi de moyen-long terme? C'est parce que cet argent est évidemment affecté au financement de l'économie. Et on parle pas du livret A, on est vraiment, le livret A aussi, évidemment son intérêt, mais c'est de l'injection directe dans le financement des entreprises. Et donc, on était relativement conservateurs. Pour autant, on est là sur 3 ouvertures qui répondent à des besoins et à... on va dire des marqueurs à la fois politiques, symboliques et d'enjeux de société qui sont importants et qui pourront, on l'espère, être valorisés pour satisfaire vos salariés. Le sujet suivant, qui est pour le coup beaucoup plus à la fois politique par son importance et qui était à notre regard très significatif pour faciliter et encourager les entreprises à se saisir des outils de partage de la valeur comme l'intéressement, la participation ou les abondements, les versements de suppléments ou tout le support à l'actionnariat salarié, c'était évidemment la question du forfait social. Nous avons eu des débats assez, je vais dire longs, on peut dire difficiles, avec les organisations syndicales, où on est sur des lignes évidemment qu'on peut pas cadrer, dire antagonistes, mais on a des arguments très divers. Et celui des organisations syndicales était essentiel, enfin, on va dire de deux ordres. C'était le fait qu'il ne faut pas venir saper le financement du modèle français. Et puis que, surtout, de leur point de vue, il s'agit de revenus, certes différés, mais de revenus des salariés. Je ne trouve pas. Oui. Et donc à ce titre, il ne souhaitait pas réduire le forfait, sachant que notre demande en entrée de négociation était évidemment sa suppression, quels que soient les outils, et qu'on évoluait vers une demande d'harmonisation. Donc ça, c'est peut-être le point de regret si on est dans une ligne stricte patronale, c'est de ne pas avoir réussi à emporter cet élément-là, qui aurait été donc l'harmonisation du forfait social, alors qui concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas ou très à la marge concernées par le forfait social, mais le forfait social, on commence à le trouver entre 50 et 250 pour certains outils, à partir de 50 salariés pour certains outils, à partir de 250 pour d'autres, et donc ça nous semblait intéressant de passer d'une situation où on avait... 5, ça dépend comment on les compte, mais 5 à 8 possibilités de taux de forfait social selon les outils, selon la taille de l'entreprise, à une situation où on n'en aurait eu que 2, par exemple, un pour les moins de 250, un pour les plus de 250, quels que soient les outils. Donc ce n'est pas acquis. En revanche, ce que nous avons obtenu, c'est que les syndicats s'alignent sur nous pour souligner l'intérêt d'une réflexion sur le sujet et d'une simplification du forfait social. Donc c'est un chantier qui n'est pas clos, on n'a pas obtenu gain de cause pour cette fois, mais on a permis de l'ouvrir et de le mettre comme un marqueur très très signifiant, très important du sujet partage de la valeur pour peut-être pas pour la transposition législative qui arrivera d'ici l'été, mais au moins pour les temps à venir. Enfin, l'accord prévoit la suppression de la règle qui permettait le report de 3 ans de l'obligation de mettre en place la participation en présence d'un accord d'intéressement. Donc là, c'est, on va dire, c'est la concession, c'est une concession importante faite aux organisations syndicales. Elle est importante en nombre d'entreprises. On peut estimer qu'elle est relativement marginale, puisque pour être clair, on ne touche pas donc au passage de seuil qui se fait en 5 ans. C'est-à-dire que quand vous arrivez quand vous embauchez votre 50e salarié, il faut rester à minima cet effectif pour voir constater au bout de 5 ans le franchissement du seuil et donc se voir imposer l'obligation de participation. Il y a jusqu'à ce qu'il y ait transposition dans la loi, une subtilité qui est que quand vous arrivez sur cette constatation avec déjà un accord d'intéressement, on rajoute 3 ans à ces 5 ans. Donc on passait le seuil en 8 ans au lieu de 5 ans. On a convergé avec les syndicats pour revenir au seul délai de 5 années consécutives au-dessus de 50 salariés pour constater l'obligation de se soumettre à la participation.
Alors, pour poursuivre sur les avancées substantielles donc obtenues côté patronal dans cette négociation, tout d'abord, nous avons échappé à l'ouverture des informations fiscales de l'entreprise au CSE, hein, aux élus représentants du personnel, parce qu'il y avait une forte demande sur ce point et le CSE souhaitait, les organisations syndicales souhaitaient voir développer et préciser leur accès aux informations fiscales de l'entreprise, donc notamment l'alias fiscale de l'entreprise. Donc ça n'a pas, ils n'ont pas obtenu cette concession. Et par ailleurs, s'agissant des politiques de rémunération et de valorisation du travail, comme je l'évoquais déjà tout à l'heure, donc il n'y a pas dans cet accord de disposition qui impose directement de niveau de rémunération aux entreprises ou qui prévoit de mesures directement dans le domaine des salaires et de la rémunération des salariés, mais un simple rappel de l'existence des dispositions légales applicables en matière de négociation salariale, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, hein, qui peuvent avoir un impact sur le traitement des questions de partage de la valeur. Mais voilà, donc c'est un simple rappel des obligations de négociation qui existent déjà dans ces domaines, à la fois au niveau de la branche et de l'entreprise. Donc la volonté des partenaires sociaux est bien à cet égard de consacrer comme niveau de négociation les plus adaptés, la branche et l'entreprise, pour traiter la question de la rémunération et du partage de la valeur. Et puis par ailleurs, on a également un simple rappel, ou plutôt une invitation des branches n'ayant pas respecté parfaitement cette obligation légale, d'ouvrir les discussions sur la nécessité de revoir les classifications avant le 31 décembre 2023, dès lors qu'elles n'auraient pas respecté leur obligation quinquennale d'engager ces négociations prévues par le Code du travail. Voilà pour les avancées de l'accord. Et puis par ailleurs, on vous l'indiquait en introduction de cette présentation, cet accord comporte 2 mesures structurantes qui ont permis d'obtenir la signature des organisations syndicales à la dernière séance de négociation. Tout d'abord, cette première mesure concerne les entreprises de moins de 50 salariés. Et elle prévoit, d'une part, à cette mesure, une obligation d'engager une négociation au niveau de la branche. Alors, c'est une seule négociation, il n'y a pas d'obligation de négociation périodique. Donc, d'engager une négociation dans la branche pour envisager la mise en place d'accords types de participation dérogatoires, c'est-à-dire il est possible d'envisager la mise en place de dispositifs de participation pour les moins de 50 qui donnent un résultat moins favorable que la formule actuelle de participation imposée par le Code du travail. Et puis pour les moins de 50, il y a une deuxième disposition. C'est l'obligation de mettre en place à partir du 1er janvier 2025 un dispositif de la valeur, alors totalement déterminé par l'employeur, dans les entreprises de 11 à 50 salariés qui remplissent trois conditions. Donc cela concerne les entreprises de moins de 50 salariés dont le bénéfice fiscal est supérieur à 1% du chiffre d'affaires pendant trois années consécutives. À condition par ailleurs que ces entreprises soient constituées sous forme de société. Il s'agissait d'écarter de l'application de cette mesure les entreprises appartenant à des indépendants, donc les entreprises qui ne sont pas constituées sous forme de société. Et par ailleurs, ça ne concerne que les entreprises qui ne sont pas déjà couvertes par un dispositif de partage de la valeur déjà connu, existant, tel qu'un système de participation, d'intéressement, un PE ou un PER. Donc voilà pour la mesure structurante concernant les entreprises de moins de 50. Et il existe également une seconde mesure structurante qui a permis qui concerne cette fois les entreprises de plus de 50 salariés. Donc cette mesure comporte une obligation d'engager une négociation permettant d'évoquer la mise en place d'une clause sur les résultats exceptionnels. Donc cette négociation doit s'engager dans le cadre des négociations habituelles sur la participation ou l'intéressement, la définition de la notion de résultat exceptionnel étant entièrement à la main de l'employeur, hein, au terme des dispositions de l'accord interprofessionnel. Donc cette négociation qui n'aboutira pas nécessairement à la conclusion d'un accord, hein, puisqu'il n'y a pas d'obligation de résultat lorsqu'on engage cette négociation, peut déboucher sur la conclusion d'un accord qui soit prévoira une négociation une négociation à froid d'un mécanisme de versement spécifique dans le cadre des accords de participation et d'intéressement lorsque le résultat exceptionnel sera atteint. Donc, c'est-à-dire le dispositif n'existe pas encore, mais lorsque le résultat exceptionnel sera atteint, les parties s'engagent à engager une nouvelle négociation pour envisager un versement spécifique dans cette hypothèse. Ou alors, la négociation peut déboucher directement sur la mise en place d'un dispositif de versement dans l'hypothèse où on atteint le résultat exceptionnel qui sera défini par l'employeur et précisé dans l'accord. Donc voilà, une simple obligation de négocier au niveau de l'entreprise, sans aucune obligation de parvenir à un accord. Et si l'accord, si on parvient à un accord, il pourra prévoir au choix. Donc, soit l'engagement d'une nouvelle négociation pour envisager un mécanisme de versement spécifique dans le cadre des accords de participation ou d'intéressement, soit un dispositif de versement prévu à l'avance en cas d'atteinte de résultats exceptionnels.
Pour conclure, je vais y passer très rapidement, parce que Gauthier me dit qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. On vous rappelle l'architecture de l'ANI, mais voilà, celui-ci vous a été transmis, a été envoyé à tout le réseau, ainsi que une rapide note de décryptage qui reprend finalement les principaux points qui viennent de vous être présentés. Mais voilà, très rapidement, l'accord est articulé autour de cinq chapitres. Le premier, donc, qui traite des politiques de rémunération et de la valorisation du travail, c'est notamment dans ce chapitre que vous retrouverez le rappel des obligations légales en la matière. L'obligation pour les branches de s'interroger sur l'ouverture d'une négociation sur les classifications si elles n'ont pas répondu à leur obligation quinquennale. Deuxième chapitre qui traite de la mise en lumière du partage de valeur au sein des entreprises et des branches professionnelles. Là, on parle vraiment concrètement de la banque, de la BDESE, de la banque de données économiques, sociales et environnementales. Troisième chapitre sur le qui est finalement le si j'ose dire le cœur de l'accord, qui s'intitule encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur pour faciliter leur généralisation. C'est notamment dans ce chapitre que vous retrouvez les articles qui traitent des deux mesures dites structurantes qui viennent de vous être présentées. Et donc ces mesures sont notamment prévues aux articles 6, 7 et 8. Et 9, pardon. Voilà, je passe ensuite sur les différentes mesures techniques relatives aux différents dispositifs. Quatrième chapitre sur l'actionnariat salarié. Là aussi, là c'est notamment dans ce chapitre-là que vous retrouvez le nouveau dispositif présenté par François tout à l'heure sur le plan de partage de la valorisation de l'entreprise. Et enfin, cinquième et dernier chapitre sur l'amélioration des dispositifs d'épargne salariale. Et je vous propose d'arrêter là la présentation et de passer à la réponse aux questions. Je crois qu'il y a une première question sur l'applicabilité des différentes mesures. Est-ce qu'elles sont applicables dès extension de l'accord ou est-ce que, quelles mesures sont applicables dès extension de l'accord et quelles mesures nécessitent une transposition législative? Alors c'est une question qui n'est pas si simple, à laquelle il n'est pas si simple de répondre. Pour essayer d'y répondre assez simplement, la quasi-totalité des dispositions de cet accord nécessite une transposition législative. Si on regarde, froidement et juridiquement le sujet, seules deux dispositions de mémoire pourraient être applicables dès extension. La première, c'est l'obligation faite aux branches de s'interroger sur la nécessité d'ouvrir une négociation sur les classifications avant la fin de l'année 2024. Et la deuxième disposition qui serait normalement directement applicable est celle relative au résultat exceptionnel et à l'obligation d'ouvrir une négociation pour prévoir un mécanisme ou une ouverture de discussion sur le sujet. Une fois que j'ai dit ça d'un point de vue strictement juridique, vous avez bien compris par rapport au contexte qu'on présentait en début de webinaire que c'est un sujet évidemment très politique et on comprend que le ministère du Travail et la majorité présidentielle souhaitent s'emparer de cet accord, on l'espère en le respectant à la lettre. Les premiers signaux vont plutôt dans ce sens-là, même s'il faut évidemment rester très prudent, et nous serons très vigilants dans tout le processus de transposition législative. Et ce qu'on comprend, c'est que voilà, il y a plutôt une volonté de transposer l'entièreté de l'accord dans la loi. Et notamment la disposition dont je parlais à l'instant sur les résultats exceptionnels. Donc pour résumer, la principale disposition qui serait directement applicable dès extension, c'est l'invitation faite aux branches à se réinterroger sur la nécessité d'ouvrir une négociation ou pas sur leur classification. J'espère avoir répondu le plus clairement possible à la question.
Si je peux peut-être faire un commentaire, je pense que dans la présentation qu'on a faite de cet accord national interprofessionnel, on a assez largement insisté sur le contexte dans lequel on a négocié. Ce contexte, il est très important parce que évidemment, compte tenu d'une actualité politique très riche sur le champ des retraites, on a pu parfois un petit peu oublier ou la presse négliger ce débat sur le partage de la valeur. Pour autant, comme l'ont rappelé Pierre-Mathieu et François, on a négocié sous forte contrainte politique. Et donc, évidemment, cette année, il s'inscrit dans ce contexte-là et il n'intervient pas évidemment parce que le MEDEF tout d'un coup un jour s'est réveillé en disant tiens je vais aller négocier sur ces sujets. On l'a fait d'abord parce que le gouvernement nous l'a demandé et parce que on a négocié avec d'un côté une majorité politique qui voilà produisait un certain nombre de propositions qui voilà évidemment nous posaient beaucoup de difficultés et aussi parce qu'en face on avait des organisations syndicales qui dans un contexte d'une forte inflation faisaient du sujet du pouvoir d'achat un sujet évidemment absolument central. Donc voilà, c'est important aussi de le rappeler que cet accord il intervient dans ce contexte là et que au maximum on a essayé d'éviter par les dispositions qui ont été présentées, des dispositions qui auraient été pour nous pas acceptables, évidemment, parce que remettant en cause soit l'équilibre de la participation, soit étendant la participation aux PME. Voilà, donc c'est évidemment un point important à rappeler.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.